La situation sur le marché du pétrole et des énergies fossiles m'embête. Pourtant, on ne peut pas dire que le pétrole soit excessivement cher en ce moment. Oui, 80 à 90 dollars, c'est pas donné. Car au-delà de 90 dollars, je rappelle que l'économie européenne est en risque de récession globalement. Mais en même temps, avec la guerre en Ukraine qui nous a définitivement coupé du gaz russe, et les conflits entre Israël, les Palestiniens et le Hamas, les choses peuvent largement dégénérer bien plus fortement que ça. De plus, en termes de stocks disponibles, la situation de la production de pétrole n'est pas folichon non plus. Le pic de production de pétrole conventionnel a eu lieu en 2008, et à ce jour, le pic de production tout pétrole confondu, donc avec le non conventionnel, eh bien, il date de novembre 2018, pour un total de 102,68 millions de barils par jour à son maximum. Peut-être que l'on dépassera de nouveau le pic de 2018, mais pour l'instant, et ça commence à faire 6 ans. Or, le problème, c'est que du pétrole, sauf preuve du contraire, on n'en trouve plus des masses. Pour être précis, on en trouve de moins en moins et dans des proportions bien inférieures à la demande. Alors, à qui peut-on incomber la faute de ce déficit de découverte de nouveaux gisements? Les géologues nous disent que c'est un problème structurel, que le pétrole met environ 400 millions d'années à se former et qu'aujourd'hui, bah, on a fait le tour des grandes découvertes. Dit autrement, quand il y en a plus, il y en a plus. Mais de l'autre côté, les pétroliers accusent les politiques de trop les taxer, ce qui les empêche d'investir dans la recherche de nouveaux gisements. Alors bien sûr, je n'ai pas la réponse claire et précise, mais on peut prendre le problème à l'envers. Si ce sont les taxes et divers règlements qui pèsent sur les pétroliers, on devrait observer l'impact de ces politiques sur les émissions de gaz à effet de serre. Et oui, si ces politiques marchent pour empêcher les pétroliers de forer, on peut supposer qu'elles sont aussi efficaces pour la consommation du pétrole. Mais bon, quand on regarde la densité de CO2 dans l'atmosphère, sur le long terme, on se rend compte que l'on est bien incapable de faire une quelconque différence avant, après ou pendant chacune des grandes réglementations sur le climat. Personnellement, cela ne m'étonne pas puisque j'observe souvent l'incapacité des États à agir sur les grandes tendances structurelles. Autre point qui va dans ce sens, le pic des découvertes a eu lieu en 1964. Et franchement, tout le monde sera d'accord pour dire qu'entre 1964 et 1997, date du protocole de Kyoto, personne n'avait grand chose à faire des émissions de CO2. Donc mettre le problème des découvertes de pétrole sur le dos des réglementations, bah ça me paraît un peu gros. Il semble donc bien que le problème de la quantité de pétrole à extraire soit effectivement plus un problème géologique que politique. Donc si on prolonge dans les 20 ans à venir ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, la situation de la disponibilité du pétrole, bah elle est pas génialissime. Alors, peut-on regarder tout cela d'un point de vue macroéconomique pour essayer de voir à quoi on pourrait faire face, mais surtout comment en tirer profit? Pour rappel, tirer profit de cette situation ne signifie pas que vous allez piquer leurs richesses aux autres, mais seulement que vous allez anticiper une situation très ennuyeuse en prenant vos dispositions avant les autres. Bien sûr, si vous avez une grande sensibilité au sort de vos congénères, et en admettant que vous pensiez avoir raison, plus vite tout le monde sera au courant, mieux ça se passera pour tout le monde dans l'avenir. Car tout le monde sera préparé avant la catastrophe. Par contre, effectivement, moins il y a de gens qui spéculent sur un goulot d'étranglement du pétrole, moins ils seront nombreux et plus ils gagneront d'argent quand tout le monde se réveillera. Mais plus dure sera la chute. Et en même temps, si personne, entre guillemets, n'y croit, bah c'est peut-être que c'est nous qui nous trompons. Et dans ce cas, bah on aura l'air un peu bête. Mais c'est très exactement ça que signifie spéculer. Donc vous voyez, c'est plutôt chouette en vrai, car cela consiste à essayer de se poser les bonnes questions pour anticiper les coûts et saisir les opportunités. Bref, une fois ces propos visant à épargner la sensibilité des personnes qui pensent que spéculer c'est mal, spéculons gaiement. Jusqu'à aujourd'hui, on peut décrire sur le long terme des cycles du prix du pétrole de 25 ans. Pour faire simple, pendant 25 ans, environ, les prix stagnent dans une grande fourchette à laquelle tout le monde s'habitue et ensuite on change de cycle en passant par une phase de forte hausse du prix. Maintenant, si on cherche à savoir qu'est-ce qu'il est préférable d'acheter dans les grands actifs à notre disposition aujourd'hui, on peut mettre l'or et les actions américaines sur le graphique du pétrole afin de voir comment tout ce petit monde se comporte. On observe deux choses. La première, c'est que le prix de l'or est plutôt bien corrélé au prix du pétrole. Mais ça, beaucoup de gens le savent déjà et c'est pour ça que vous trouverez facilement le ratio gold to oil pour savoir si l'or est un peu plus cher ou un peu moins cher que l'énergie pour ceux qui veulent essayer de spéculer sur l'oscillation des prix de l'or autour des prix du pétrole. Le dernier coup d'éclat de ce ratio, c'est bien évidemment lors de la crise des mesures anti-Covid où le pétrole est passé brièvement par des prix négatif. C'est là que vous voyez ce ratio s'envoler, ce qui signifie bien évidemment qu'il fallait acheter de l'énergie plutôt que de l'or. Mais la deuxième chose que l'on observe sur ce graphique, c'est que dans les phases de hausse des prix du pétrole, les marchés actions stagnent, tandis que lorsque le pétrole baisse, les marchés actions s'envolent. Dit autrement, le prix des actions oscille autour des prix du pétrole qui donne le la, car produire de la croissance économique semble bien aussi simple, dans un pays convenablement libre bien entendu,
attendu, que de trouver de l'énergie à transformer pour pas cher. Nous pouvons donc regarder ce que donne le ratio S&P 500 contre le pétrole. Mais en fait non, comme le pétrole c'est très pénible à acheter car le coût du stockage impacte la performance de tout ETF pétrole, et que l'or c'est comme le pétrole, regardons plutôt le ratio S&P contre l'or. Le ratio est en bleu, et Charles a tracé une moyenne mobile sur 5 ans, histoire de dégager les tendances haussières ou baissières de ce ratio. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ? Eh bien, nous sommes à peu près pile poil sur la moyenne mobile. Cela signifie donc deux choses. Soit les prix du pétrole vont partir à la baisse, et dans ce cas, il faudra acheter les marchés actions, soit les prix du pétrole se durcissent, et là, il vaut mieux avoir de l'or. C'est à ce moment-là que nous en revenons au grand cycle de l'énergie et aux perspectives de découverte, donc d'extraction de pétrole pour les années à venir. En termes de cycle, et si l'histoire se répète, il semblerait bien que l'on ne soit pas dans de très bonnes dispositions, puisque nous sommes au bout des 25 dernières années du cycle actuel. Mais du coup, on parle de ces cycles, mais à quoi correspondent-ils ? Est-ce qu'il y a de la numérologie là-dedans ou quelque chose de sérieux qui se cache derrière ? Eh ben, la conclusion n'est pas si évidente. Oui, les cycles d'investissement industriel dans le pétrole sont longs, mais on est plus sur des périodes de 10 à 15 ans. 25 ans, ça commence à faire longuet. En même temps, 3 cycles clairement identifiables sur 75 ans, il est peu probable que cela relève du hasard total. Didier a également observé ces cycles sur une période de 110 ans. Donc bon, tout cela n'est pas évident, mais fondamentalement, par l'observation depuis pas mal de temps, on peut commencer à y croire. Maintenant, si on regarde les choses sous l'angle du pétrole qui va être disponible dans les années à venir, j'en conclus qu'il sera d'un côté de plus en plus rare, mais de l'autre côté qu'il ne sera pas réparti également pour tous les pays. Pour se tenir au courant de cette évolution, il faut regarder au niveau macro la consommation de barils par jour. Si elle reste scotchée en dessous de 103 millions par jour, cela n'est pas bon signe. Après, région par région, il faut regarder quelle est la situation pour savoir qui aura le plus de pétrole par rapport aux autres, bien que la quantité globale diminue, en tout cas en partant de ces hypothèses. Du côté des Américains, ils profitent encore de leur pétrole non conventionnel qui fait la fortune des USA en ce moment. En 2023, les USA ont même conservé leur titre de premier exportateur au monde, s'il vous plaît. Alors oui, les puits de pétrole non conventionnels ont une durée de vie entre 2 et 5 ans, donc il est peu probable que la production de pétrole des USA continue d'augmenter indéfiniment. Mais pour autant, tout cela va prendre un peu de temps. Et même si le feu de paille entre guillemets des pétroles américains non conventionnels ne dure encore que quelques années, eh ben c'est toujours ça de prix. Et puis 5 ans à notre époque n'ont pas la même valeur que 5 ans dans les années 30. En 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans le monde. Donc, en termes de puissance relative des USA, ils ont des cartes à jouer. D'ailleurs, j'y travaille personnellement, puisqu'avec Data Factory, que j'ai cofondé avec quelques copains, on investit quand même 21 millions de dollars aux USA dans le secteur de l'énergie pour participer à la modernisation des moyens de production d'électricité. Je ferme cette petite parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un pays qui a la culture de l'innovation et du capitalisme schumpeterien, l'avenir sera forcément plein de surprises. En ce qui concerne l'Union européenne, par contre, la situation semble beaucoup plus compromise. Sans le gaz russe, l'UE est condamnée à voir la quantité d'énergie qu'elle peut importer à minima plafonnée si elle trouve des substituts à cette énergie russe, voire diminuer. Enfin, concernant l'Asie, et l'Asie tout comme l'Afrique n'étant pas un pays, parlons de la Chine et de sa zone d'influence directe que j'appelle la Chine étendue. Ils récupèrent l'énergie russe, ce qui leur rapporte potentiellement une bouffée d'oxygène considérable. Oui, la Chine en a vraisemblablement terminé avec sa grande phase de croissance ricardienne. Oui, il faut que ce grand pays fasse sa mue vers une croissance schumpeterienne qui inclut, de fait, une place plus grande pour le chaos économique et social que l'on appelle l'innovation destructrice. Mais en attendant, si cette zone dispose d'énergie, elle a les moyens de faire des choses. Donc à voir, on en reparlera dans une autre vidéo de la Chine de 2024. Enfin, en Asie toujours, il y a le Japon qui redevient de plus en plus un pays asiatique. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est très proche de l'Occident en réalité. Est-ce que cela va continuer ou est-ce que le Japon va se réorienter progressivement vers l'Asie ? Eh ben l'histoire n'est pas tranchée et peut-être en train de se jouer en ce moment. Pour autant, le Japon reste une puissance économique car sa richesse par habitant augmente bien que le PIB stagne car sa population globale diminue. Le Japon reste aussi une puissance car les Japonais sont des fourmis besogneuses qui épargnent bien plus qu'elles ne dépensent. Et oui, chaque année, le monde envoie de l'argent au Japon grâce à ses nombreux investissements à l'étranger, contrairement à la France qui s'appauvrit d'une centaine de milliards par an du fait de sa position extérieure nette fortement négative. Au final, et pour synthétiser de façon très claire, voici le pari très très directionnel que j'ai pris sur mes finances personnelles. Alors petit disclaimer, ce que je vais vous dire n'engage que moi, ce n'est pas un conseil en investissement, ni un conseil du tout. Je vous raconte juste quelle position très spéculative j'ai prise pour moi-même sur une petite partie de mon patrimoine, car je pense que c'est un coup à faire qui me parle bien et qui me fait un peu marrer. Après, n'oublions pas que j'ai de bonnes chances que ça rate et que je perde beaucoup d'argent dans le processus. Mais ça, c'est mon problème, puisque je ne vous conseille rien. Et puis en fait, si, voilà, je vous conseille de ne pas faire comme moi. Comme ça, si vous perdez des sous, ce sera complètement de votre faute en tout point. Et toc. Alors comme je pense que l'or a de bonnes chances de s'apprécier, car je fais le pari que nous allons vivre des moments énergétiques compliqués, j'ai acheté un demi-bitcoin. Ah, pourquoi du bitcoin ? Eh bien, parce que fondamentalement, le bitcoin, de mon point de vue, c'est entre autres, mais principalement quand même, de l'or numérique. Donc je rajoute une couche spéculative en achetant du bitcoin, car de mon point de vue, acheter de l'or pour parier sur la hausse du pétrole, c'est pas assez marrant. Voilà. Ensuite, comme je pense que l'euro va vers le bas, j'ai emprunté 10 000 euros en mettant mon demi-bitcoin, soit 30 000 dollars, en collatéral. Donc si le bitcoin va à moins de 30 000 dollars, mon demi-bitcoin vaudra moins de 15 000 dollars. Et comme mon ratio obligatoire de collatéralisation est à environ 75%, ça signifie qu'à ce prix-là, je saute. Oui, avec un bitcoin qui tombe sous les 30 000 dollars, soit une division par deux du prix quand même, le protocole DeFi sur lequel j'ai mis mon demi-bitcoin en garantie me le prend et il me rend la différence moins mon prêt. En gros, avec un BTC à 30 000 dollars, mon collatéral passe à 15 000, je suis liquidé, donc le protocole vend mon demi-BTC, soustrait ma dette de 10 000 euros et me rend la différence, soit moins de 5 000 euros, car il y a aussi des frais de liquidation à enlever si je suis exécuté automatiquement. Donc à ce stade, si le prix du bitcoin est divisé par deux, il me restera peut-être 10 000 euros et des bananes sur les 30 000 que j'ai mis à la base, modulo ce qui aura fait la deuxième partie de la stratégie. Ça s'appelle du levier et c'est dangereux pour ces raisons. Et encore, là j'y vais mollo sur le levier parce que j'ai pas envie de regarder ma stratégie tous les jours. Mais ce n'est pas tout. Comme je pense que l'euro est plutôt baissier, je n'ai pas gardé ces 10 000 euros que j'ai empruntés. Non, ce n'est pas encore assez risqué. J'ai donc vendu ces 10 000 euros contre un peu plus de 1,6 million de yens, soit l'équivalent de 10 000 euros, la monnaie japonaise qui est à un plus bas depuis bien longtemps. Regardez cette belle courbe baissière depuis 5 ans, ininterrompue. Le mot ininterrompu est très important puisqu'on n'est pas du tout sûr que ça s'interrompt. C'est un drame, une lente agonie. Mais alors pourquoi ? Puisqu'en ce moment, là où il y a du yen, il n'y a pas de plaisir. Eh bien pour deux raisons. Première, c'est que le yen est une monnaie antifragile, ce qui signifie qu'elle s'apprécie dans les moments de crise, car le Japon est un pays qui a de grands excédents financiers, contrairement aux autres. Donc en cas de crise, les Japonais arrêtent d'investir à l'étranger, ce qui fait monter sa monnaie, alors que la monnaie des autres a plutôt tendance à descendre. Pour la faire simple, sans trop analyser, puisque là on est quand même bien avancé dans la vidéo, je vous ai mis le yen face à l'euro lors de la crise de 2000 et de la crise de 2009. Là, c'est à peu près clair pour tout le monde que le yen monte. L'euro, bien évidemment, fait le chemin inverse, puisque là, vous observez le yen contre l'euro. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté du yen, c'est qu'il est sous-coté en ce moment pour des raisons, douteuses en fait. C'est-à-dire que on sait pas trop si le Japon tente de se refaire une santé industrielle en utilisant le méchant procédé de la dévaluation compétitive, très peu apprécié par ses voisins, ou alors si le Japon réoriente sa monnaie vers une compétitivité avec la Chine. Là, c'est un point d'ombre, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Du coup, je me dis que jouer le rebond du yen, c'est pas forcément idiot, car à un moment, les USA, l'Union Européenne et peut-être même la Chine pourraient bien toquer à la porte du gouvernement japonais en disant « Bon, allez, on arrête les âneries, merci d'arrêter de nous pomper nos usines. » Et puis si on part sur une crise énergétique, le yen devrait remonter aussi. Donc bon, j'ai fini par céder aux sirènes des prix du yen, qui est vraiment dans les chaussettes. Alors si on fait le résumé, je suis exposé à Bitcoin à la hausse, puis à l'euro à la baisse, puis enfin au yen à la hausse. Sur une seule opération. Si tout se passe bien pour moi, et que le yen et bitcoin montent pendant que l'euro descend, je vais pouvoir rembourser ma dette avec un euro dévalué par rapport au yen qui sera monté. De plus, si bitcoin fait également x2 ou x je sais pas combien, ce qui ne me semble pas totalement impossible, j'aurai transformé mes 30 000 dollars de collatéral en quelque chose comme peut-être, je sais pas, 60 000, 80 000, dans un intervalle de temps que j'ignore. A l'inverse, si l'univers en décide autrement et que tout part dans l'autre sens, que Bitcoin baisse, que l'euro monte et que le yen baisse, alors là je vais prendre cher. Allez, pour donner une fourchette, c'est pas impossible que je perde jusqu'à 25 000 dollars sur les 30 que j'ai mis à la base. Ça fait une grosse paume quand même, j'en conviens, et cette vidéo m'aura coûté atrocement cher. Après, si ce type d'analyse vous parle et que vous souhaitez investir raisonnablement votre épargne, j'ai une lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet. Là, c'est nettement plus sérieux. Didier fait un dossier de macroéconomie par mois, et Pour ma part, je vous présente une opportunité pour faire du rendement facile. Par exemple, comment faire ponctuellement 15% de rendement sur du cash, comment faire 4% de rendement sur son compte courant, en toute sécurité pour la peine, ou alors comment faire des prêts à environ 10% en private lending, ce genre de choses. Et puis Didier vous présente deux portefeuilles qui déclinent sa vision de la macroéconomie. Le portefeuille du rentier, dont le but est de conserver la valeur en minimisant la volatilité et les fortes pertes ponctuelles que l'on appelle des drawdowns. À ce jour, le rentier a pris plus de 10% en 6 mois, tandis que le portefeuille du tacticien a pris 5% sur les deux derniers mois. Alors attention, ces portefeuilles sont récents, ils évoluent plutôt lentement, mais gardez en tête ce que Didier n'arrête pas de répéter, on fait les gros gains en évitant les grosses pertes et non en sautant sur les tendances haussières. Et puis dans cette lettre, vous serez les premiers à être avertis lorsque je lance des opérations comme les prêts que l'on a fait avec Data Factory, que l'on rémunère entre 10% et 12%, ainsi que d'autres opérations qui sont restées confidentielles aux abonnés de la lettre. Bref, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la lettre en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Pour en savoir plus sur l'or, je vous invite à aller voir cette vidéo où je fais le point sur les forces qui poussent le marché à la hausse. Le problème avec l'or, c'est que, officiellement, tout va bien, car les USA, la Chine et l'essentiel des pays de la zone euro ne sont pas censés être en récession et ne sont pas non plus censés procéder à de grands programmes de débasement monétaire. Et pourtant, l'or monte. On se retrouve dans cette prochaine vidéo pour en parler.